Chapitre 6. Un matin, au point du jour, c'était le 24 décembre 1744, Paul, en se levant, aperçut un pavillon blanc arboré sur la montagne de la Découverte. Ce pavillon était le signalement d'un vaisseau qu'on voyait en mer. Paul courut à la ville pour savoir s'il n'apportait pas des nouvelles de Virginie. Il y resta jusqu'au retour du pilote du port qui s'était embarqué pour aller le reconnaître suivant l'usage. Cet homme ne revint que le soir. Il rapporta au gouverneur que le vaisseau signalé était le Saint-Géran du port de 700 tonneaux, commandé par un capitaine appelé M. Aubin, qu'il était à 4 lieues au large, et qu'il ne mouillerait au port Louis que le lendemain, dans l'après-midi, si le vent était favorable. Il n'en faisait point du tout, alors. Le pilote remit au gouverneur les lettres que ce vaisseau apportait de France. Il y en avait une pour Madame de la Tour, de l'écriture de Virginie. Paul s'en saisit aussitôt, la baisa avec transport, la mit dans son sein et courut à l'habitation. Du plus loin qu'il aperçut la famille qui attendait son retour pour le rocher des adieux, il éleva la lettre en l'air sans pouvoir parler, et aussitôt tout le monde se rassembla chez Madame de la Tour pour en entendre la lecture. Virginie mandait à sa mère qu'elle avait éprouvé beaucoup de mauvais procédés de la part de sa grand-tante, qu'il avait voulu marier malgré elle, ensuite déshérité, et enfin renvoyé dans un temps qui ne lui permettait d'arriver à l'île de France que dans la saison des ouragans, qu'elle avait essayé en vain de la fléchir en lui représentant ce qu'elle devait à sa mère et aux habitudes du premier âge, qu'elle en avait été traitée de fille insensée, dont la tête était gâtée par les romans, qu'elle n'était maintenant sensible qu'au bonheur de revoir et d'embrasser sa chère famille, et qu'elle eût satisfait cet ardent désir dès le jour même si le capitaine lui eût permis de s'embarquer dans la chaloupe du pilote, mais qu'il s'était opposé à son départ à cause de l'éloignement de la terre et d'une grosse mer qui régnait au large malgré le calme des vents. À peine cette lettre fut lue que toute la famille, transportée de joie, s'écria « Virginie est arrivée !» Maîtresse et serviteurs tous s'embrassèrent. Madame de la Tour dit à Paul, « Mon fils, allez prévenir notre voisin de l'arrivée de Virginie. » Aussitôt, Domingue alluma une flambeau de bois de ronde, et Paul et lui s'acheminèrent vers mon habitation. Il pouvait être 10 heures du soir. Je venais d'éteindre ma lampe et de me coucher, lorsque j'aperçus à travers les palissades de ma chambre une lumière dans les bois. Bientôt après, j'entendis la voix de Paul qui m'appelait. Je me lève, et à peine j'étais habillé, que Paul, hors de lui et tout essoufflé, me saute au cou en me disant « Allons, allons, Virginie est arrivée, allons au port, le vaisseau y mouillera au point du jour. » Sur le champ, nous nous mettons en route. Comme nous traversions le bois de la montagne longue et que nous étions déjà sur le chemin qui mène des pamplemousses au port, j'entendis quelqu'un marcher derrière nous. C'était un noir qui s'avançait à grands pas. Dès qu'il nous eut atteints, je lui demandai d'où il venait et où il allait en si grande hâte. Il me répondit « Je viens du quartier de l'île appelé la Poudre d'Or. On m'envoie au port avertir le gouverneur qu'un vaisseau de France est bouillé sous l'île d'Ambre. Il tire du canon pour demander du secours, car la mer est bien mauvaise. » Cet homme ayant ainsi parlé, continua sa route sans s'arrêter davantage. Je dis alors à Paul « Allons vers le quartier de la Poudre d'Or, au-devant de Virginie. » Il n'y a que 3 heures d'ici. Nous nous mîmes donc en route vers le nord de l'île. Il faisait une chaleur étouffante. La lune était levée. On voyait autour d'elle trois grands cercles noirs. Le ciel était d'une obscurité affreuse. On distinguait, à la lueur fréquente des éclairs, de longues files de nuages épais, sombres, peu élevés, qui s'entassaient vers le milieu de l'île et venaient de la mer avec une grande vitesse, quoiqu'on ne sentît pas le moindre vent à terre. Chemin faisant, nous crûmes entendre rouler le tonnerre, mais, ayant prêté l'oreille attentivement, nous reconnûmes que c'était des coups de canon répétés par les échos. Ces coups de canon lointains, joints à l'aspect d'un ciel orageux, me firent frémir. Je ne pouvais douter qu'ils ne fussent les signaux de détresse d'un vaisseau en perdition. Une demi-heure après, nous n'entendîmes plus tirer du tout, et ce silence me parut encore plus effrayant que le bruit lugubre qui l'avait précédé. Nous nous hâtions d'avancer sans dire un mot et sans oser nous communiquer nos inquiétudes. Vers minuit, nous arrivâmes tout en nage sur le bord de la mer au quartier de la Poudre d'Or. Les flots s'y brisaient avec un bruit épouvantable. Ils en couvraient les rochers et les grèves d'écume d'un blanc éblouissant et d'étincelles de feu. Malgré les ténèbres, nous distinguâmes à ces lueurs phosphoriques les pirogues des pêcheurs qu'on avait tirées bien avant sur le sable. À quelque distance de là, nous vîmes à l'entrée du bois un feu autour duquel plusieurs habitants s'étaient rassemblés. Nous fûmes tous nous y reposer en attendant le jour. Pendant que nous étions assis auprès de ce feu, un des habitants nous raconta que, dans l'après-midi, il avait vu un vaisseau en pleine mer porté sur l'île par les courants, que la nuit l'avait dérobé à sa vue, que 2 heures après le coucher du soleil, il l'avait entendu tirer du canon pour appeler du secours, mais que la mer était si mauvaise qu'on n'avait pu mettre aucun bateau dehors pour aller à lui, que bientôt après il avait cru apercevoir ces fameux fanaux allumés, et que dans ce cas il craignait que le vaisseau, venu si près du rivage, n'eût passé entre la terre et la petite île d'Ambre, prenant celle-ci pour le coin de Mire, près duquel passent les vaisseaux qui arrivent au Port-Louis, et que, si cela était, ce qu'il ne pouvait toutefois affirmer, ce vaisseau était dans le plus grand péril. Un autre habitant prit la parole et nous dit qu'il avait traversé plusieurs fois le canal qui sépare l'île d'Ambre de la côte, qu'il l'avait sondé, que la tenure et le mouillage en étaient très bons, et que le vaisseau y était en parfaite sûreté, comme dans le meilleur port. « Oh, j'y mettrai toute ma fortune, ajouta-t-il, et j'y dormirai aussi tranquillement qu'à terre. » Un troisième habitant dit qu'il était impossible que ce vaisseau pût entrer dans ce canal, où à peine les chaloupes pouvaient naviguer. Il assura qu'il l'avait vu mouiller au-delà de l'île d'Ambre, en sorte que, si le vent venait à s'élever au matin, il serait le maître de pousser au large ou de gagner le port. D'autres habitants ouvrirent d'autres opinions. Pendant qu'ils contestaient entre eux, suivant la coutume des créoles oisifs, Paul et moi, nous gardions un profond silence. Nous restâmes là jusqu'au petit point du jour. Mais il faisait trop peu de clair au soleil pour qu'on pût distinguer aucun objet sur la mer, qui d'ailleurs était couverte de brume. Nous n'entrevîmes au large qu'un nuage sombre, qu'on nous dit être l'île d'Ambre, située à 15 minutes de lieue de la côte. On apercevait dans ce jour ténébreux que la pointe du rivage où nous étions et quelques pitons des montagnes de l'intérieur de l'île qui apparaissait de temps en temps au milieu des nuages qui circulaient autour. Vers les 7 heures du matin, nous entendîmes dans les bois un bruit de tambour. C'était le gouverneur, M. de Labourdonnais, qui arrivait à cheval, suivi d'un détachement de soldats armés de fusils et d'un grand nombre d'habitants et de noirs. Il plaça ses soldats sur le rivage et leur ordonna de faire feu de leurs armes tous à la fois. À peine leur décharge fut faite que nous aperçûmes sur la mer une lueur suivie presque aussitôt d'un coup de canon. Nous jugeâmes que le vaisseau était à peu de distance de nous et nous courûmes tous du côté où nous avions vu son signal. Nous aperçûmes alors, à travers le brouillard, le corps et les vergues d'un grand vaisseau. Nous en étions si près que, malgré le bruit des flots, nous entendîmes le sifflet du maître qui commandait la manœuvre et les cris des matelots qui crièrent 3 fois « Vive le roi !» car c'est le cri des Français dans les dangers extrêmes ainsi que dans les grandes joies, comme si dans les dangers ils appelaient leur prince à leur secours ou comme s'ils voulaient témoigner alors qu'ils sont prêts à périr pour lui. Depuis le moment où le Saint-Gérant aperçut que nous étions à portée de le secourir, il ne cessa de tirer du canon de 3 minutes en 3 minutes. Monsieur de Labourdonnais fit allumer de grands feux de distance en distance sur la grève et envoya chez tous les habitants du voisinage chercher des vivres, des planches, des câbles et des tonneaux vides. On en vit arriver bientôt une foule, accompagnée de leurs noirs, chargés de provisions et d'agrès, qui venaient des habitations de la Poudre d'Or, du quartier des Flaques et de la rivière du Rempart. Un des plus anciens de ces habitants s'approcha du gouverneur et lui dit « Monsieur, on a entendu toute la nuit des bruits sourds dans la montagne. Dans les bois, les feuilles des arbres remuent sans qu'il fasse de vent. Les oiseaux de marine se réfugient à terre. Certainement, tous ces signes annoncent un ouragan. » « Eh bien, mes amis, répondit le gouverneur, nous y sommes préparés, et sûrement le vaisseau l'est aussi. » En effet, tout présageait l'arrivée prochaine d'un ouragan. Les nuages qu'on distinguait au zénith étaient à leur centre d'un noir affreux et cuivré sur leur bord. L'air retentissait des cris des pailles en cul, des frégates, des coupeurs d'eau et d'une multitude d'oiseaux en marine qui, malgré l'obscurité de l'atmosphère, venaient de tous les points de l'horizon chercher des retraites dans l'île. Vers les 9 heures du matin, on entendit du côté de la mer des bruits épouvantables, comme si des torrents d'eau mêlés à des tonnerres eussent roulé du haut des montagnes. Tout le monde s'écria « Voilà l'ouragan !» et dans l'instant, un tourbillon affreux de vent enleva la brume qui couvrait l'île d'Ambre et son canal. Le Saint-Gérant parut alors à découvert avec son pont chargé de bondes, ses vergues et ses mâts de une amelée sur le tillac, son pavillon en berne, 4 câbles sur son avant et un de retenu sur son arrière. Il était mouillé entre l'île d'Ambre et la terre, en deçà de la ceinture de récifs qui entoure l'île de France et qu'il avait franchi par un endroit où jamais vaisseau n'avait passé avant lui. Il présentait son avant aux flots qui venaient de la pleine mer, et à chaque lame d'eau qui s'engageait dans le canal, sa proue se soulevait tout entière, de sorte qu'on en voyait la carène en l'air. Mais dans ce mouvement, sa poupe venant à plonger disparaissait à la vue jusqu'au couronnement comme si elle eût été submergée. Dans cette position où le vent et la mer le jetaient à terre, il lui était également impossible de s'en aller par où il était venu, ou, en coupant ses câbles, d'échouer sur le rivage, dont il était séparé par de hauts fonds semés de récifs. Chaque lame qui venait briser sur la côte s'avançait en mugissant jusqu'au fond des anses et y jetait des galets à plus de 50 pieds dans les terres. Puis, venant à se retirer, elle découvrait une grande partie du rivage dont elle roulait les cailloux avec un bruit rauque et affreux. La mer, soulevée par le vent, grossissait à chaque instant, et tout le canal, compris entre cette île et l'île d'Ambre, n'était qu'un vaste napperon d'écume blanche creusé de vagues noires et profondes. Ces écumes s'amassaient dans le fond des anses à plus de 6 pieds de hauteur, et le vent, qui en balayait la surface, les portait par-dessus l'escarpement du rivage à plus d'une demi-lieue dans les terres. Alors flocons blancs et innombrables qui étaient chassés horizontalement jusqu'au pied des montagnes, on eût dit d'une neige qui sortait de la mer. L'horizon offrait tous les signes d'une longue tempête. La mer y paraissait confondue avec le ciel. Il s'en détachait sans cesse des nuages d'une forme horrible qui traversaient le zénith avec la vitesse des oiseaux, tandis que d'autres y paraissaient immobiles comme de grands rochers. On n'apercevait aucune partie azurée du firmament. Une lueur olivâtre et blafarde éclairait seule tous les objets de la terre, de la mer et des cieux. Dans les balancements du vaisseau, ce qu'on craignait arriva. Les câbles de son avant rompirent, et comme il n'était plus retenu que par une seule haussière, il fut jeté sur les rochers à une demi-encablure de rivage. Ce ne fut qu'un cri de douleur parmi nous. Paul allait s'élancer à la mer lorsque je le saisis par le bras. « Mon fils, lui dis-je, voulez-vous périr ?»« Oh, que j'aille à son secours !» s'écria-t-il, « ou que je meure !» Comme le désespoir lui ôtait la raison, pour prévenir sa perte, Dom Oleng et moi lui attachèrent à la ceinture une longue corde dont nous saisîmes l'une des extrémités. Paul alors s'avança vers le Saint-Gérant, tantôt nageant, tantôt marchant sur les récifs. Quelquefois, il avait l'espoir de l'aborder, car la mer, dans ses mouvements irréguliers, laissait le vaisseau presque à sec, de manière qu'on eût pu faire le tour à pied, mais bientôt après, revenant sur ses pas avec une nouvelle furie, elle le couvrait d'énormes voûtes d'eau qui soulevaient tout l'avant de sa carène et rejetaient bien loin, sur le rivage, le malheureux Paul, les jambes en sang, la poitrine meurtrie et à demi noyée. À peine ce jeune homme avait-il repris l'usage de ses sens, qu'il se relevait et retournait avec une nouvelle ardeur vers le vaisseau que la mer cependant entr'ouvrait par d'horribles secousses. Tout l'équipage, désespérant alors de son salut, se précipitait en foule à la mer sur des vergues, des planches, des cages à poules, des tables et des tonneaux. On vit alors un objet digne d'une éternelle pitié. Une jeune demoiselle parut dans la galerie de la poupe du Saint-Gérin, tendant les bras vers celui qui faisait tant d'efforts pour la joindre. C'était Virginie. Elle avait reconnu son amant à son intrépidité. La vue de cette aimable personne, exposée à un si terrible danger, nous remplit de douleur et de désespoir pour Virginie, d'un port noble et assuré. Elle nous faisait signe de la main, comme nous disant un éternel adieu. Tous les matelots s'étaient jetés à la mer. Il n'en restait plus qu'un sur le pont, qui était tout nu et nerveux comme Hercule. Il s'approcha de Virginie avec respect. Nous le vîmes se jeter à ses genoux et s'efforcer même de lui ôter ses habits, mais elle, le repoussant avec dignité, détourna de lui sa vue. On entendit aussitôt ces cris redoublés des spectateurs. « Sauvez-la ! Sauvez-la, ne la quittez pas !» Mais dans ce moment, une montagne d'eau d'une effroyable grandeur s'engouffra entre l'île d'Ambre et la côte et s'avança en rugissant vers le vaisseau qu'elle menaçait de ses flancs noirs et de ses sommets écumants. Ah, cette terrible vue, le matelot s'élança seul à la mer. Et Virginie, voyant la mort inévitable, posa une main sur ses habits, l'autre sur son cœur, et levant en haut les yeux sereins, parut un ange qui prend son vol vers les cieux. Oh, jour affreux, hélas, tout fut englouti. La lame jeta bien avant dans les terres une partie des spectateurs. Qu'un mouvement d'humanité avait porté à s'avancer vers Virginie, ainsi que le matelot qu'il avait voulu sauver à la nage. Cet homme, échappé à une mort presque certaine, s'agenouilla sur le sable en disant « Oh mon Dieu, vous m'avez sauvé la vie, mais je l'aurais donné de bon cœur pour cette digne demoiselle qui n'a jamais voulu se déshabiller comme moi. Domingue et moi, nous retirâmes des flots le malheureux Paul, sans connaissance, rendant le sang par la bouche et par les oreilles. Le gouverneur le fit mettre entre les mains des chirurgiens, et nous cherchâmes de notre côté le long du rivage si la mer n'y apporterait point le corps de Virginie. Mais le vent ayant tourné subitement, comme il arrive dans les ouragans, nous eûmes le chagrin de penser que nous ne pouvions pas même rendre à cette fille infortunée les devoirs de la sépulture. Nous nous éloignâmes de ce lieu, accablés de consternation, tous l'esprit frappé d'une seule perte dans un naufrage où un grand nombre de personnes avaient péri, la plupart doutant, d'après une fin aussi funeste, une râle si vertueuse, qu'il exista une providence. Car il y a des maux si terribles et si peu mérités que l'espérance même du sage en est ébranlée. Cependant, on avait mis Paul, qui commençait à reprendre ses sens, dans une maison voisine, jusqu'à ce qu'il fût dans l'état d'être transporté à son habitation. Pour moi, je m'en revins avec Domingue, afin de préparer la mère de Virginie et son ami à ce désastreux événement. Quand nous fûmes à l'entrée du vallon de la rivière des Lataniers des Noirs, nous dire que la mer jetait beaucoup de débris du vaisseau dans la baie vis-à-vis. Nous y descendîmes, et un des premiers objets que j'aperçus sur le rivage fut le corps de Virginie. Elle était à moitié couverte de sable dans l'attitude où nous l'avions vue périr. Ses traits n'étaient point sensiblement altérés. Ses yeux étaient fermés, mais la sérénité était encore sur son front. Seulement les pâles violettes de la mort se confondaient sur ses joues avec les roses de la pudeur. Une de ses mains était sur ses habits, et l'autre, qu'elle appuyait sur son cœur, était fortement fermée et roidie. J'en dégageai avec peine une petite boîte. Mais quelle fut ma surprise, lorsque je vis que c'était le portrait de Paul, qu'elle lui avait promis de ne jamais abandonner tant qu'elle vivrait. Ah, cette dernière marque de la constance et de l'amour de cette fille infortunée, je pleurai amèrement. Pour demain, il se frappait la poitrine et perçait l'air de ses cris douloureux. Nous portâmes le corps de Virginie dans une cabane de pêcheurs où nous le donnâmes à garder à de pauvres femmes malabares qui prirent soin de le laver. Pendant qu'elle s'occupait de ce triste office, nous montâmes en tremblant à l'habitation. Nous y trouvâmes Madame de la Tour et Marguerite en prière, en attendant des nouvelles du vaisseau. Dès que Madame de la Tour m'aperçut, elle s'écria « Où est ma fille, ma chère fille, mon enfant ?» Ne pouvant douter de son malheur à mon silence et à mes larmes, elle fut saisie tout à coup d'étouffement et d'angoisse douloureuse. Sa voix ne faisait plus entendre que des soupirs et des sanglots. Pour Marguerite, elle s'écria « Où est mon fils? Je ne vois point mon fils !» Et elle s'évanouit. Nous courûmes à elle, et l'ayant fait revenir, je l'assurai que Paul était vivant et que le gouverneur en faisait prendre soin. Elle ne reprit ses sens que pour s'occuper de son ami qui tombait de temps en temps dans de longs évanouissements. Madame de la Tour passa toute la nuit dans ses cruelles souffrances, et par leur longue période, j'ai jugé qu'aucune douleur n'était égale à la douleur maternelle. Quand elle recouvrait la connaissance, elle tournait des regards fixes et mornes vers le ciel. En vain, son ami et moi, nous lui pressions les mains dans les nôtres, en vain, nous l'appelions par les noms les plus tendres. Elle paraissait insensible à ces témoignages de notre ancienne affection, et il ne sortait de sa poitrine oppressée que de sourds gémissements. Dès le matin, on apporta Paul couché dans un palanquin. Il avait repris l'usage de ses sens, mais il ne pouvait proférer une parole. Son entrevue avec sa mère et Madame de la Tour, que j'avais d'abord redoutée, produisit un meilleur effet que tous les soins que j'avais pris jusqu'alors. Un rayon de consolation parut sur le visage de ces deux malheureuses mères. Elles se mirent l'une et l'autre auprès de lui, le saisirent dans leurs bras, le baisèrent, et leurs larmes, qui avaient été suspendues jusqu'alors par l'excès de leur chagrin, commencèrent à couler. Paul y mêla bientôt les siennes. La nature s'étant ainsi soulagée dans ces trois infortunés, un long assoupissement succéda à l'état convulsif de leur douleur et leur procura un repos léthargique, semblable à la vérité à celui de la mort. Monsieur de La Bourdonnais m'envoya avertir secrètement que le corps de Virginie avait été apporté à la ville par son ordre et que de là on allait le transférer à l'église des Pamplemousses. Je descendis aussitôt au Port-Louis où je trouvai des habitants de tous les quartiers rassemblés pour assister à ses funérailles, comme si l'île eût perdu en elle ce qu'elle avait de plus cher. Dans le port, les vaisseaux avaient leurs vergues croisées, leurs pavillons en berne et tiraient du canon par longs intervalles. Des grenadiers ouvraient la marche du convoi. Ils portaient leurs fusils baissés. Leurs tambours, couverts de longs crêpes, ne faisaient entendre que des sons lugubres. et on voyait l'abattement peint dans les traits de ces guerriers qui avaient tant de fois affronté la mort dans les combats sans changer de visage. Huit jeunes demoiselles des plus considérables de l'île, vêtues de blanc et tenant des palmes à la main, portaient le corps de leur vertueuse compagne couvert de fleurs. Un chœur de petits enfants le suivait en chantant des hymnes. Après eux venait tout ce que l'île avait de plus distingué dans ses habitants et dans son état-major, à la suite duquel marchait le gouverneur, suivi de la foule du peuple. Voilà ce que l'administration avait ordonné pour rendre quelques honneurs à la vertu de Virginie. Mais quand son corps fut arrivé au pied de cette montagne, à la vue de ces mêmes cabanes dont elle avait fait si longtemps le bonheur et que sa mort remplissait maintenant de désespoir, toute la pompe funèbre fut dérangée. Les hymnes et les chants cessèrent. On n'entendit plus dans la plaine que des soupirs et des sanglots. On vit accourir alors des troupes de jeunes filles des habitations voisines pour faire toucher au cercueil de Virginie des mouchoirs, des chapelets, des couronnes de fleurs en l'invoquant comme une sainte. Les mères demandaient à Dieu une fille comme elle, les garçons des amantes aussi constantes, les pauvres une amie aussi tendre, les esclaves une maîtresse aussi bonne. Lorsqu'elle fut arrivée au milieu de sa sépulture, des négresses de Madagascar et des cafres de Mozambique déposèrent autour d'elle des paniers de fruits et suspendirent des pièces d'étoffe aux arbres voisins suivant l'usage de leur pays. Les indiennes du Bengale et de la côte Malabar apportèrent des cages pleines d'oiseaux auxquelles donnèrent la liberté sur son corps. Tant la perte d'un objet aimable intéresse toutes les nations, et tant est grand le pouvoir de la vertu malheureuse, puisqu'elle réunit toutes les religions autour de son tombeau. Il fallut mettre des gardes auprès de sa fosse et en écarter quelques filles de pauvres habitants qui voulaient s'y jeter à toute force, disant qu'elles n'avaient plus de consolation à espérer dans le monde et qu'il ne leur restait qu'à mourir avec celle qui était leur unique bienfaitrice. On l'enterra près de l'église des Pamplemousses, sur son côté occidental, au pied d'une touffe de bambou, où, en venant à la messe avec sa mère et Marguerite, elle aimait à se reposer, assise, à côté de celui qu'elle appelait alors son frère. Au retour de cette pompe funèbre, M. de La Bourdonnais monta ici, suivi d'une partie de son nombreux cortège. Il offrit à Madame de la Tour et à son ami tous les secours qui dépendraient de lui. Il s'exprima en peu de mots, mais avec indignation, contre sa tante dénaturée. Et s'approchant de Paul, il lui dit tout ce qu'il crut propre à le consoler. « Je désirerais, lui dit-il, votre bonheur et celui de votre famille. Dieu m'en est témoin. Mon ami, il faut aller en France. Je vous y ferai avoir du service. » Dans votre absence, j'aurai soin de votre mère comme de la mienne. » Et en même temps, il lui présenta la main. Mais Paul retira la sienne et détourna la tête pour ne pas le voir. Pour moi, je restais dans l'habitation de mes amis infortunés pour leur donner, ainsi qu'à Paul, tous les secours dont j'étais capable. Au bout de 3 semaines, Paul fut en état de marcher, mais son chagrin paraissait augmenter à mesure que son corps reprenait des forces. Il était insensible à tout. Ses regards étaient éteints, et il ne répondait rien à toutes les questions qu'on pouvait lui faire. Madame de la Tour, qui était mourante, lui disait souvent « Mon fils, tant que je vous verrai, je croirai voir ma chère Virginie. » À ce nom de Virginie, il tressaillait et s'éloignait d'elle, malgré les invitations de sa mère qui le rappelait auprès de son ami. Il allait seul se retirer dans le jardin et s'asseyait au pied du cocotier de Virginie, les yeux fixés sur sa fontaine. Le chirurgien du gouverneur, qui avait pris le plus grand soin de lui et de ses dames, nous dit que, pour le tirer de sa propre mélancolie noire, il fallait lui laisser tout ce qui lui plairait, sans le contrarier en rien, qu'il n'y avait que ce seul moyen de vaincre le silence auquel il s'obstinait. Je résolus de suivre son conseil. Dès que Paul sentit ses forces un peu rétablies, le premier usage qu'il en fit fut de s'éloigner de l'habitation. Comme je ne le perdais pas de vue, je me mis en marche auprès de lui et je dis à Domingue de prendre des vivres et de nous accompagner. À mesure que ce jeune homme descendait cette montagne, sa joie et ses forces semblait renaître. Il prit d'abord le chemin des pamplemousses, et quand il fut auprès de l'église dans l'allée des bambous, il s'en fut droit au lieu où il vit de la terre fraîchement remuée. Là, il s'agenouilla, et levant les yeux au ciel, il fit une longue prière. Sa démarche me parut de bon augure pour le retour de sa raison, puisque cette marque de confiance envers l'être suprême faisait voir que son âme commençait à reprendre ses forces et ses fonctions naturelles. Domingue et moi, nous nous mîmes à genoux à son exemple et nous priâmes avec lui. Ensuite, il se leva et prit sa route vers le nord de l'île sans faire beaucoup d'attention à nous. Comme je savais qu'il ignorait, et non seulement où on avait déposé le corps de Virginie, mais même s'il avait été retiré de la mer, je lui demandai pourquoi il avait été prié Dieu au pied de ces bambous. Il me répondit « Nous y avons été si souvent. » Il continua sa route jusqu'à l'entrée de la forêt où la nuit nous surprit. Là, je l'engageai par mon exemple à prendre quelque nourriture. Ensuite, nous dormîmes sur l'herbe au pied d'un arbre. Le lendemain, je crus qu'il se déterminerait à revenir sur ses pas. En effet, il regarda quelque temps dans la plaine l'église des Pamplemousses, avec les longues avenues de bambous, et il fit quelques mouvements comme pour y retourner. Mais il s'enfonça brusquement dans la forêt, en dirigeant toujours sa route vers le nord. Je pénétrai son intention, et je m'efforçai en vain de le distraire. Nous arrivâmes vers le milieu du jour au quartier de la Poudre d'Or. Il descendit précipitamment au bord de la mer, vis-à-vis du lieu où avait péri le Saint-Géran. À la vue de l'île d'Ambre et de son canal alors uni comme un miroir, il s'écria « Virginie, oh ma chère Virginie !» Et aussitôt, il tomba en défaillance. Domingue et moi, nous le portâmes dans l'intérieur de la forêt, où nous le fîmes revenir avec bien de la peine. Dès qu'il eut repris ses sens, il voulut retourner sur les bords de la mer, mais, l'ayant supplié de ne pas renouveler sa douleur et la nôtre par de si cruels ressouvenirs, il prit une autre direction. Enfin, pendant 8 jours, il se rendit dans tous les lieux où il s'était trouvé avec la compagne de son enfance. Il parcourut le sentier par où elle avait été demandée la grâce de l'esclave de la rivière noire. Il revit ensuite les bords de la rivière des Trois Mamelles, où elle s'assit, ne pouvant plus marcher, et la partie du bois où elle s'était égarée. Tous les lieux qui lui rappelaient les inquiétudes, les jeux, les repas, la bienfaisance de sa bien-aimée, la rivière de la montagne longue, ma petite maison, la cascade voisine, le papayer qu'elle avait planté, les pelouses où elle aimait à courir, les carrefours de la forêt où elle se baissait à chanter, firent tour à tour couler ses larmes. Et les mêmes échos, qui avaient retenti tant de fois de leurs cris de joie communs, ne répétaient plus maintenant que ces mots douloureux. « Oh, Virginie, oh, ma chère Virginie !» Dans cette vie sauvage et vagabonde, ses yeux se cavèrent, son teint jaunit, et sa santé s'altéra de plus en plus. Persuadé que le sentiment de nos maux redouble par le souvenir de nos plaisirs, et que les passions s'accroissent dans la solitude, je résolus d'éloigner mon infortuné ami des lieux qui lui rappelaient le souvenir de sa perte, et de le transférer dans quelques endroits de l'île où il y eut beaucoup de dissipation. Pour cet effet, je le conduisis sur les hauteurs habitées du quartier de Williams, où il n'avait jamais été. L'agriculture et le commerce répandaient dans cette partie de l'île beaucoup de mouvements et de variétés. Il y avait les troupes de charpentiers qui écarissaient des bois et d'autres qui les sciaient en planches. Des voitures allaient et venaient le long de ces chemins. De grands troupeaux de bœufs et de chevaux y paissaient dans de vastes pâturages et la campagne y était parsemée d'habitations. L'élévation du sol y permettait en plusieurs lieux la culture de diverses espèces de végétaux de l'Europe. On y voyait, çà et là, des moissons de blé dans la plaine, des tapis de fraisiers dans les éclaircies des bois et des haies de rosiers le long des routes. La fraîcheur de l'air, en donnant de l'attention aux nerfs, y était même favorable à la santé des blancs. De ces hauteurs, situées vers le milieu de l'île et entourées de grands bois, on n'apercevait ni la mer, ni le Port-Louis, ni l'église des Pamplemousses, ni rien qui put rappeler à Paul le souvenir de Virginie. Les montagnes mêmes, qui présentent différentes branches du côté du Port-Louis, n'offrent plus du côté des plaines de Williams qu'un long promontoire en ligne droite et perpendiculaire, d'où s'élèvent plusieurs longues pyramides de rochers où se rassemblent les nuages. Ce fut donc dans ces plaines où je conduisis Paul. Je le tenais sans cesse en action, marchant avec lui au soleil et à la pluie, de jour et de nuit, regardant exprès dans les bois, les défrichés, les champs, afin de distraire son esprit par la fatigue de son corps et de donner le change à ses réflexions par l'ignorance du lieu où nous étions et du chemin que nous avions perdu. Mais l'âme d'un amant retrouve partout les traces de l'objet aimé. La nuit et le jour, le calme des solitudes et le bruit des habitations, le temps même qui emporte tant de souvenirs, rien ne peut l'en écarter. Comme l'aiguille touchée de l'aimant, elle a beau être agitée, dès qu'elle rentre dans son repos, elle se tourne vers le pôle qui l'attire. Quand je demandais à Paul, égaré au milieu des plaines de Williams, « Où irons-nous maintenant ?» Il se tournait vers le nord et me disait « Voilà nos montagnes, retournons-y !» Je vis bien que tous les moyens que je tentais pour le distraire étaient inutiles et qu'il ne me restait d'autre ressource que d'attaquer sa passion en elle-même, en y employant toutes les forces de ma faible raison. Je lui répondis donc, « Oui, voilà les montagnes où demeurait votre chère Virginie. Et voilà le portrait que vous lui aviez donné et qu'en mourant, elle portait sur son cœur, dont les derniers mouvements ont encore été pour vous. Je présentai alors à Paul le petit portrait qu'il avait donné à Virginie au bord de la fontaine des cocotiers. Ah, cette vue, une joie funeste parut dans ses regards. Il saisit avidement ce portrait de ses faibles mains et le porta sur sa bouche. Alors sa poitrine s'oppressa, et dans ses yeux à demi sanglants de larmes s'arrêtèrent sans pouvoir couler. Je lui dis: « Mon fils, écoutez-moi, qui suis votre ami, qui a été celui de Virginie, et qui, au milieu de vos espérances, est souvent tâché de fortifier votre raison contre les accidents imprévus de la vie. Que déplorez-vous avec tant d'amertume? Est-ce votre malheur? Est-ce celui de Virginie? Votre malheur, oui, sans doute, il est grand. Vous avez perdu la plus aimable des filles qui aurait été la plus digne des femmes. Elle avait sacrifié ses intérêts aux vôtres, et vous avez préféré à la fortune comme la seule récompense digne de sa vertu. Mais que savez-vous si l'objet de qui vous deviez attendre un bonheur si pur n'eût pas été pour vous la source d'une infinité de peines? Elle était sans bien et déshéritée. Vous n'aviez désormais à partager avec elle que votre seul travail. Revenue plus délicate par son éducation et plus courageuse par son malheur même, vous l'auriez vue chaque jour succomber en s'efforçant de partager vos fatigues. Quand elle vous aurait donné des enfants, ses peines et les vôtres auraient augmenté par la difficulté de soutenir seule avec vous de vieux parents et une famille naissante. Vous me direz, le gouverneur nous aurait aidés. Que savez-vous si dans une colonie qui change si souvent d'administrateur, vous aurez souvent des labourdonnais? S'il ne viendra pas ici des chefs sans mœurs et sans morale, si, pour obtenir quelques misérables secours, votre épouse n'eût pas été obligée de leur faire sa cour, ou elle eût été faible et vous eussiez été à plaindre, ou elle eût été sage et vous fussiez resté pauvre. Heureux si, à cause de sa beauté et de sa vertu, vous n'eussiez pas été persécuté par ce même de qui vous espériez de la protection. Il me fut resté, me direz-vous, le bonheur indépendant de la fortune de protéger l'objet aimé qui s'attache à nous à proportion de sa faiblesse même, de le consoler par mes propres inquiétudes, de le réjouir de ma tristesse et d'accroître notre amour avec nos peines mutuelles. Sans doute, la vertu et l'amour jouissent de ces plaisirs amers, mais elle n'est plus, et il vous reste ce qu'après vous elle a le plus aimé, sa mère et la vôtre, que votre douleur inconsolable conduira au tombeau. Mettez votre bonheur à les aider, comme elle y avait mis elle-même. Mon fils, la bienfaisance est le bonheur de la vertu. Il n'y en a point de plus assuré, de plus grand sur la terre. Les projets de plaisir, de repos, de délices, d'abondance, de gloire ne sont point faits pour l'homme faible, voyageur et passager. Voyez comme un pas vers la fortune nous a précipités tous d'abîme en abîme. Vous vous y êtes opposés, il est vrai, mais qui n'eût pas cru que le voyage de Virginie devait se terminer par son bonheur et par le vôtre? Les invitations d'une parente riche et âgée, les conseils d'un sage gouverneur, les applaudissements d'une colonie, les exhortations et l'autorité d'un prêtre ont décidé du malheur de Virginie. Ainsi, nous courons à notre perte, trompés par la prudence même de ceux qui nous gouvernent. Il eût mieux valu sans doute ne pas les croire, ni se fier à la voix et aux espérances d'un monde trompeur. Mais enfin, de tant d'hommes que nous voyons si occupés dans ces plaines, de tant d'autres qui vont chercher la fortune aux Indes, ou qui, sans sortir de chez eux, jouissent un repos en Europe des travaux de ceux-ci, il n'y en a aucun qui ne soit destiné à perdre un jour ce qu'il chérit le plus, grandeur, fortune, femme, enfant, amis. La plupart auront à joindre à leur perte le souvenir de leur propre imprudence. Pour vous, en rentrant en vous-même, vous n'avez rien à vous reprocher, vous avez été fidèle à votre foi, vous avez eu, à la fleur de la jeunesse, la prudence d'un sage en ne vous écartant pas du sentiment de la nature. Vos vues seules étaient légitimes parce qu'elles étaient pures, simples, désintéressées, et que vous aviez sur Virginie des droits sacrés qu'aucune fortune ne pouvait balancer. Vous l'avez perdue, et ce n'est ni votre imprudence, ni votre avarice, ni votre fausse sagesse qui vous l'ont fait perdre, mais Dieu même, qui a employé les passions d'autrui pour vous ôter l'objet de votre amour. Dieu, de qui vous tenez tout, qui voit tout ce qui vous convient, et dont la sagesse ne vous laisse aucun lieu au repentir et au désespoir qui marche à la suite des maux dont nous avons été la cause. Voilà ce que vous pouvez vous dire dans votre infortune. Je ne l'ai pas mérité. Est-ce donc le malheur de Virginie, sa fin, son état présent que vous déplorez? Elle a subi le sort, réservé à la naissance, à la beauté et aux empires même. La vie de l'homme, avec tous ses projets, s'élève comme une petite tour dont la mort est le couronnement. En naissant, elle était condamnée à mourir. Heureuse d'avoir dénoué les fléaux de la vie avant sa mère, avant la vôtre, avant vous, c'est-à-dire de n'être pas morte plusieurs fois avant la dernière. La mort, mon fils, est un bien pour tous les hommes. Elle est la nuit de ce jour inquiet qu'on appelle la vie. C'est dans le sommeil de la mort que reposent pour jamais les maladies, les douleurs, les chagrins, les craintes qui agitent sans cesse les malheureux vivants. Examinez les hommes qui paraissent les plus heureux. Vous verrez qu'ils ont acheté leur prétendu bonheur bien chèrement. La considération publique par des maux domestiques, la fortune par la perte de la santé, le plaisir si rare d'être aimé par des sacrifices continuels et souvent, à la fin d'une vie sacrifiée aux intérêts d'autrui, ils ne voient autour d'eux que des amis faux et des parents ingrats. Mais Virginie a été heureuse jusqu'au dernier moment. Elle a été avec nous, par les biens de la nature, et loin de nous, par ceux de la vertu. Et même dans le moment terrible où nous l'avons vue périr, elle était encore heureuse, car soit qu'elle jeta les yeux sur une colonie entière à qui elle causait une désolation universelle, ou sur vous qui couriez avec tant d'intrépidité à son secours, elle a vu combien elle nous était chère à tous. Elle s'est fortifiée contre l'avenir par le souvenir de l'innocence de sa vie, et elle a reçu alors le prix que le ciel réserve à la vertu, un courage supérieur au danger. Elle a présenté à la mort un visage serein. Mon fils, Dieu donne à la vertu tous les événements de la vie à supporter pour faire voir qu'elle seule peut en faire usage et y trouver du bonheur et de la gloire. Quand il lui réserve une réputation illustre, il l'élève sur un grand théâtre et la met aux prises avec la mort. Alors son courage sert d'exemple, et le souvenir de ses malheurs reçoit à jamais un tribut de larmes de la postérité. Voilà le monument immortel qui lui est réservé sur une terre où tout passe et où la mémoire même de la plupart des rois est bientôt ensevelie dans un éternel oubli. Mais Virginie existe encore. Mon fils, voyez que tout change sur la terre et que rien ne s'y perd. Aucun art humain ne pourrait anéantir la plus petite particule de matière, et ce qui fut raisonnable, sensible, aimant, vertueux, religieux, aurait péri lorsque les éléments dont il était revêtu sont indestructibles. Ah ! Si Virginie a été heureuse avec nous, elle l'est encore maintenant bien davantage. Il y a un Dieu, mon fils. Toute la nature l'annonce. Je n'ai pas besoin de vous le prouver. Il n'y a que la méchanceté des hommes qui leur fasse nier une justice qu'ils craignent. Son sentiment est dans votre cœur ainsi que ses ouvrages sont sous nos yeux. Croyez-vous donc qu'il laisse Virginie sans récompense? Croyez-vous que cette même puissance qui avait revêtu cette âme si noble d'une forme si belle, où vous sentiez un art divin, n'aurait pu la tirer des flots? Que celui qui a arrangé le bonheur actuel des hommes par des lois que vous ne connaissez pas ne puisse en préparer un autre à Virginie par des lois qui vous sont également inconnues? Quand nous étions dans le néant, si nous eussions été capables de penser, aurions-nous pu nous former une idée de notre existence? Et maintenant que nous sommes dans cette existence ténébreuse et fugitive, pouvons-nous prévoir ce qu'il y a au-delà de la mort, par où nous en devons sortir? Dieu a-t-il besoin, comme l'homme, du petit globe de notre terre pour servir de théâtre à son intelligence et à sa bonté, et n'a-t-il pu propager la vie humaine que dans les champs de la mort? Il n'y a pas dans l'océan une seule goutte d'eau qui ne soit pleine d'êtres vivants qui ressortissent à nous. Et il n'existerait rien pour nous parmi tant d'astres qui roulent sur nos têtes? Quoi? Il n'y aurait d'intelligence suprême et de bonté divine précisément que là où nous sommes? Et dans ces globes rayonnants et innombrables, dans ces champs infinis de lumière qui les environnent, que ni les orages ni les nuits n'obscurcissent jamais, il n'y aurait qu'un espace vain et un néant éternel? Si nous, qui ne nous sommes rien donné, osions assigner des bornes à la puissance de laquelle nous avons tout reçu, nous pourrions croire que nous sommes ici sur les limites de son empire, où la vie se débat avec la mort et l'innocence avec la tyrannie. Sans doute, il est quelque part un lieu où la vertu reçoit sa récompense. Virginie, maintenant, est heureuse. Ah, si du séjour des anges, elle pouvait se communiquer à vous, elle vous dirait comme dans ses adieux, « Oh, Paul, la vie n'est qu'une épreuve. J'ai été trouvé fidèle aux lois de la nature, de l'amour et de la vertu. J'ai traversé les mers pour obéir à mes parents. J'ai renoncé aux richesses pour conserver ma foi, et j'ai mieux aimé perdre la vie que de violer la pudeur. Le ciel a trouvé ma carrière suffisamment remplie. J'ai échappé pour toujours à la pauvreté, à la calomnie, aux tempêtes, au spectacle des douleurs d'autrui. Aucun des maux qui effraie les hommes ne peut plus désormais m'atteindre. Et vous me plaignez, je suis pur et inaltérable comme une particule de lumière. Et vous me rappelez dans la nuit de la vie, ô Paul, ô mon ami, souviens-toi de ces jours de bonheur où dès le matin nous goûtions la volupté des cieux, se levant avec le soleil sur les portants de ces rochers et se répandant avec ses rayons au sein de nos forêts. Nous éprouvions un ravissement dont nous ne pouvions comprendre la cause. Dans nos souhaits innocents, nous désirions être tout vus pour jouir des riches couleurs de l'aurore. Tout odorat pour sentir le parfum de nos plantes, tout ouïe pour entendre le concert de nos oiseaux et tout cœur pour reconnaître ses bienfaits. Maintenant, à la source de la beauté, d'où découle tout ce qui est agréable sur la terre, mon âme voit, goûte, entend, touche immédiatement ce qu'elle ne pouvait sentir alors que par de faibles organes. Ah, quelle langue pourrait décrire ces rivages d'un orient éternel que j'habite pour toujours. Tout ce qu'une puissance infinie et une bonté céleste ont pu créer pour consoler un être malheureux, tout ce que l'amitié d'une infinité d'êtres réjouis de la même félicité peut mettre d'harmonie dans des transports communs, nous l'éprouvons sans mélange. Soutiens donc l'épreuve qui t'est donnée afin d'accroître le bonheur de ta Virginie par des amours qui n'auront plus de terme, par un hymen dont les flambeaux ne pourront plus s'éteindre. Là, j'apaiserai tes regrets. Là, j'essuierai tes larmes, ô mon ami, mon jeune époux. Élève ton âme vers l'infini pour supporter des peines d'un moment. Ma propre émotion mit fin à mon discours. Pour Paul, me regardant fixement, il s'écria : Elle n'est plus, elle n'est plus ! Et une longue faiblesse succéda à ces douloureuses paroles. Ensuite, revenant à lui, il dit « Puisque la mort est un bien et que Virginie est heureuse, je veux aussi mourir pour me rejoindre à Virginie. » Ainsi, mes motifs de consolation ne servirent qu'à nourrir son désespoir. J'étais comme un homme qui veut sauver son ami coulant à fond au milieu d'un fleuve sans vouloir nager. La douleur l'avait submergé. Hélas, les malheurs du premier âge préparent l'homme à entrer dans la vie, et Paul n'en avait jamais éprouvé. Je le ramenai à son habitation. J'y trouvai sa mère et Madame de la Tour dans un état de langueur qui avait encore augmenté. Marguerite était la plus abattue. Les caractères vifs sur lesquels glissent les peines légères sont ceux qui résistent le moins aux grands chagrins. Elle me dit « Oh, mon bon voisin, il m'a semblé cette nuit voir Virginie vêtu de blanc au milieu de bocages et de jardins délicieux. Elle m'a dit « Je jouis d'un bonheur digne d'envie. » Ensuite, elle s'est approchée de Paul d'un air riant et l'a enlevé avec elle. Comme je m'efforçais de retenir mon fils, j'ai senti que je quittais moi-même la terre et que je le suivais avec un plaisir inexprimable. Alors, j'ai voulu dire adieu à mon ami. Aussitôt, je l'ai vu qui nous suivait avec Marie et Domingue. Mais ce que je trouve encore de plus étrange, c'est que Madame de la Tour a fait cette même nuit un songe accompagné des mêmes circonstances. Je lui répondis, « Mon ami, je crois que rien n'arrive dans le monde sans la permission de Dieu. Les songes annoncent quelquefois la vérité. » Madame de la Tour me fit le récit d'un songe tout à fait semblable qu'elle avait eu cette même nuit. Je n'avais jamais remarqué dans ces deux dames aucun penchant à la superstition. Je fus donc frappé de la concordance de leurs songes, et je ne doutais pas en moi-même qu'il ne vînt à se réaliser. Cette opinion que la vérité se présente quelquefois à nous pendant le sommeil est répandue chez tous les peuples de la terre. Les plus grands hommes de l'Antiquité y ont ajouté foi, entre autres Alexandre, César, les Scipions, les deux Catons et Brutus, qui n'étaient pas des esprits faibles. L'Ancien et le Nouveau Testament nous fournissent quantité d'exemples de songes qui se sont réalisés. Pour moi, je n'ai besoin à cet égard que de ma propre expérience, et j'ai éprouvé plus d'une fois que les songes sont des avertissements que nous donne quelque intelligence qui s'intéresse à nous, que si l'on veut combattre ou défendre avec des raisonnements des choses qui surpassent la lumière de la raison humaine, c'est ce qui n'est pas possible. Cependant, si la raison de l'homme n'est qu'une image de celle de Dieu, puisque l'homme a bien le pouvoir de faire parvenir ses intentions jusqu'au bout du monde par des moyens secrets et cachés, pourquoi l'intelligence qui gouverne l'univers n'en emploierait-elle pas de semblables pour la même fin? Un ami console son ami par une lettre qui traverse une multitude de royaumes, circule au milieu des haines des nations et vient apporter de la joie et de l'espérance à un seul homme. Pourquoi le souverain protecteur de l'innocence ne peut-il venir par quelque voie secrète au secours d'une âme vertueuse qui ne met sa confiance qu'en lui seul? A-t-il besoin d'employer quelque signe extérieur pour exécuter sa volonté, lui qui agit sans cesse dans tous ses ouvrages par un travail intérieur? Pourquoi douter des songes? La vie, remplie de tant de projets passagers et vains, est-elle autre chose qu'un songe? Quoi qu'il en soit, celui de mes amis infortunés se réalisa bientôt. Paul mourut 2 mois après la mort de sa chère Virginie, dont il prononçait sans cesse le nom. Marguerite vit venir sa fin 8 jours après celle de son fils, avec une joie qu'il n'est donné qu'à la vertu d'éprouver. Elle fit les plus tendres adieux à Madame de la Tour, dans l'espérance, lui dit-elle, d'une douce et éternelle réunion. « La mort est le plus grand des biens, ajouta-t-elle. On doit la désirer. Si la vie est une punition, on doit en souhaiter la fin. Si c'est une épreuve, on doit la demander courte. » Le gouvernement prit soin de Domingue et de Marie, qui n'étaient plus en état de servir et qui ne survécurent pas longtemps à leur maîtresse. Pour le pauvre fidèle, il était mort de langueur, à peu près dans le même temps que son maître. J'amenai chez moi Madame de la Tour, qui se souvenait, au milieu de si grandes pertes, avec une grandeur d'âme incroyable. Elle avait consolé Paul et Marguerite jusqu'au dernier instant, comme si elle n'avait eu que leur malheur à supporter. Quand elle ne les vit plus, elle m'en parlait chaque jour, comme d'amis chéris qui étaient dans le voisinage. Cependant, elle ne leur survécut que d'un mois. Quant à sa tante, loin de lui reprocher ses maux, elle priait Dieu de les lui pardonner et d'apaiser les troubles affreux. De son esprit, on nous apprîme qu'elle était tombée immédiatement après qu'elle eut renvoyé Virginie avec tant d'inhumanité. Cette parente dénaturée ne porta pas loin la punition de sa dureté. J'appris par l'arrivée successive de plusieurs vaisseaux qu'elle était agitée de vapeurs qui lui rendaient la vie et la mort également insupportables. Tantôt elle se reprochait la fin prématurée de sa charmante petite nièce et la perte de sa mère qui s'en était suivie. Tantôt elle s'applaudissait d'avoir repoussé loin d'elle deux malheureuses qui, disait-elle, avaient déshonoré sa maison par la bassesse de leurs inclinations. Quelquefois, se mettant en fureur à la vue de ce grand nombre de misérables dont Paris est rempli, « Que l'en voit-on » s'écriait-elle, « ces fainéants périr dans nos colonies ?» Elle ajoutait que les idées d'humanité, de vertu, de religion, adoptées par tous les peuples, n'étaient que des inventions de la politique de leurs princes. Puis, se jetant tout à coup dans une extrémité opposée, elle s'abandonnait à des terreurs superstitieuses qui la remplissaient de frayeurs mortelles. Elle courait porter d'abondantes aumônes à de riches moines qui la dirigeaient, les suppliant d'apaiser la divinité par le sacrifice de sa fortune, comme si les biens qu'elle avait refusés aux malheureux pouvaient plaire au Père des hommes. Souvent son imagination lui représentait des campagnes de feu, des montagnes ardentes, où des spectres hideux erraient en l'appelant à grands cris. Elle se jetait aux pieds de ses directeurs et elle s'imaginait contre elle-même des tortures et des supplices, car le ciel, le juste ciel, envoie aux âmes cruelles des religions effroyables. Ainsi elle passa plusieurs années, tour à tour athée et superstitieuse, ayant également en horreur la mort et la vie. Mais ce qui acheva la fin d'une si déplorable tristesse fut le sujet même auquel elle avait sacrifié les sentiments de la nature. Elle eut le chagrin de voir que sa fortune passerait après elle à des parents qu'elle haïssait. Elle chercha donc à en aliéner la meilleure partie, mais ceux-ci, profitant des accès de vapeur auxquels elle était sujette, la firent enfermer comme folle et mettre ses biens en direction. Ainsi ses richesses mêmes achevèrent sa perte. Et comme elles avaient endurci le cœur de celles qui les possédaient, elles dénaturèrent de même le cœur de ceux qui les désiraient. Elle mourut donc, et, ce qui est le comble du malheur, avec assez d'usage de sa raison, pour connaître qu'elle était dépouillée et méprisée par les mêmes personnes dont l'opinion l'avait dirigée toute sa vie. On a mis auprès de Virginie, au pied des mêmes roseaux, son ami Paul, et autour d'eux leur tendre mère et leurs fidèles serviteurs. On n'a point élevé de marbre sur leurs humbles tertres, ni gravé d'inscription à leurs vertus, mais leur mémoire est restée ineffaçable dans le cœur de ceux qu'ils ont obligés. Leurs ombres n'ont pas besoin de l'éclat qu'ils ont fui pendant leur vie. Mais si elles s'intéressent encore à ce qui se passe sur la terre, sans doute elles aiment à errer sous les toits de chaume qu'habite la vertu laborieuse, à consoler la pauvreté mécontente de son sort, à nourrir dans les jeunes amants une flamme durable, le goût des biens naturels, l'amour du travail et la crainte des richesses. La voix du peuple, qui se tait sur les monuments élevés à la gloire des rois, a donné à quelques parties de cette île des noms qui éterniseront la perte de Virginie. On voit, près de l'île d'Ambre, au milieu des écueils, un lieu appelé la passe du Saint-Géron, du nom de ce vaisseau qui y périt en la ramenant d'Europe. L'extrémité de cette longue pointe de terre que vous apercevez à 3 lieues d'ici, à demi couverte des flots de la mer que le Saint-Géron ne put doubler la veille de l'ouragan pour entrer dans le port, s'appelle le Cap Malheureux. Et voici devant nous, au bout de ce vallon, la baie du tombeau, où Virginie fut trouvée ensevelie dans le sable. Comme si la mère eût voulu rapporter son corps à sa famille et rendre les derniers devoirs à sa pudeur sur les mêmes rivages qu'elle avait honorés de son innocence. Jeunes gens, si tendrement unis, mères infortunées, chères familles, ces bois qui vous donnèrent ombrage, ces fontaines qui coulaient pour vous, ces coteaux où vous reposiez ensemble, déplorent encore votre perte. Nul depuis vous n'a osé cultiver cette terre désolée, ni relever ses humbles cabanes. Vos chèvres sont devenues sauvages, vos vergers sont détruits, vos oiseaux sont enfuis, et on n'entend plus que les cris des éperviers qui volent en rond en haut de ce bassin de rochers. Pour moi, depuis que je ne vous vois plus, je suis comme un ami qui n'a plus d'amis, comme un père qui a perdu ses enfants, comme un voyageur qui erre sur la terre où je suis rester seul. En disant ces mots, ce bon vieillard s'éloigna en versant des larmes, et les miennes avaient coulé plus d'une fois pendant ce funeste récit.